Liturgie de la parole de ce mardi 30 septembre 2025, mardi de la 26e semaine du temps ordinaire, année impaire. Béni sois-tu, Seigneur, qui fit le soir et le matin. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Jérôme de Stridon, le père de l'Église et docteur de l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Toi qui es vivant et glorieux, pour les siècles de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 9e chapitre du 51e, au 56e verset. Comme s'accomplissait les temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, Saint Jérôme de Stridon, né à Stridon vers 347 après Jésus-Christ. Stridon, c'est plus ou moins dans la Croatie actuelle. Il est mort à Bethléem. En 420 après Jésus-Christ. Il avait plus ou moins 73 ans. C'est un exégète. Il a étudié l'exégèse à l'école d'Antioche, la fameuse école d'exégèse d'Antioche de l'époque. Nous sommes dans l'Antiquité. Il a été secrétaire du pape. Donc, il a travaillé dans la diplomatie. Et après la mort du pape Damase, il s'est rendu à Bethléem. Et selon la tradition, il a passé le reste de sa vie à côté de la grotte où Jésus était né. Et à côté de la grotte, il a traduit la Bible en latin. La Bible qu'on appelle la Vulgate. Il avait étudié déjà le grec et l'hébreu à Antioche, ce qui lui a permis de traduire facilement la Bible. De l'hébreu en latin pour l'Ancien Testament et puis du grec en latin pour le Nouveau Testament. Saint Jérôme nous laisse l'exemple de quelqu'un qui aimait la Bible, aimait la parole de Dieu. Il a dit, ignorer la Bible, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Pour connaître le Christ, nous devons passer par la Bible, par les Écritures, par les Saintes Écritures. Et Saint Jérôme était aussi une personne contemplative. Il aimait la contemplation. Un ascète, pour traduire la Bible, il faut être un ascète, c'est-à-dire oublier beaucoup d'autres choses, renoncer à beaucoup de choses pour se concentrer à un travail aussi titanesque que la traduction de la Bible. Aujourd'hui, nous clôturons le mois de septembre. Nous clôturons aussi le mois de la Bible. Le mois dédié à la Bible parce que justement, à la fin de ce mois, aujourd'hui donc, le 30 septembre, nous célébrons la fête de Saint Jérôme. Et nous nous sommes préparés à cette fête pendant tout un mois qu'on appelle le mois de la Bible. Nous avons médité selon la conférence épiscopale, selon ce que la conférence épiscopale nous a proposé, la première lettre aux Corinthiens. Comment Paul travailler pour essayer de résoudre les conflits dans les communautés chrétiennes. Quelle méthode il employait, notamment pour la communauté de Corinthe. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle d'abord comment il y a un revirement exceptionnel. Le prophète Zacharie, Zacharie 8, de 20 à 23, le revirement. Jérusalem, qui était une ville détruite, abandonnée à son triste sort, est désormais la ville qui attire beaucoup de gens. Ça, c'est la prophétie de Zacharie. Et c'est vrai. Jérusalem deviendra certainement la ville qui attire beaucoup de gens. Aujourd'hui encore, nous tous nous sommes attirés par Jérusalem. Les Juifs voudraient y aller, voudraient y habiter. Les chrétiens, n'en parlons pas. Les musulmans aussi sont attirés par Jérusalem parce qu'ils ont la fameuse mosquée d'Omar, se trouve à Jérusalem. La prophétie de Zacharie s'est réalisée. Il faut toujours espérer dans la vie. Notre Dieu est le Dieu des revirements. Il peut, en tant que créateur, faire en sorte que les choses puissent tourner en votre faveur. Au moment où vous vous y attendez, peut-être le moins, il peut faire en sorte que la situation se renverse. Il sait renverser les situations. Voilà pourquoi il faut croire. Il faut croire que l'avenir est possible. Un bel avenir est possible pour vous qui êtes malade, pour vous qui êtes en prison, pour vous tous qui souffrez, qui passez des moments difficiles. Que le Seigneur accomplisse dans votre vie ce qu'il a accompli pour la ville sainte Jérusalem. Ville abandonnée depuis sa destruction par les Babyloniens, 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais après, plus tard, cette ville abandonnée, détruite, deviendra la référence, la ville qui attire. Mais, comme dit le prophète Zacharie, si Jérusalem attire autant de gens, c'est parce que Dieu s'y trouve. Il y a le temple de Dieu qui est là. Alors, ils vont à Jérusalem pour chercher Dieu. Vous aussi, si vous voulez un revirement dans votre vie, si vous voulez que la situation se renverse en votre faveur, il faut que vous soyez en communion avec Dieu. Parce que Jérusalem attire les gens parce que le temple de Dieu y est. Et là, les gens vont chercher Dieu. Vous aussi, vous pouvez attirer les gens vers vous. Vous pouvez être une référence. Si vous êtes en communion avec Dieu, les gens vont vous considérer comme référence. Parce que justement, à travers vous, ils voient Dieu. À travers vous, ils peuvent rencontrer Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, trois choses à retenir. Luc 9, de 51 à 56. Jésus qui ne veut pas échapper à son destin. Il y a des moments où vous ne pouvez rien. Ça peut être une épreuve qui vous attend, une épreuve qui vous arrive et vous ne pouvez rien faire. Il faut passer par là. Je prends un exemple. Vous nous suivez dans des hôpitaux. Vous devez passer par une intervention chirurgicale. Vous avez peur. Mais pensez à cet évangile. Jésus qui prend la résolution d'aller à Jérusalem. Il sait qu'il va mourir à Jérusalem. Il va connaître la passion, souffrir la passion. Mais il y va. Le texte dit, comme s'accomplissaient les temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Visage déterminé, il prend la route de Jérusalem. Le temps de l'accomplissement. Dieu a prévu un temps pour chacun de nous. Ça peut être un temps pour de bonnes choses, mais aussi parfois les temps des épreuves. Ça arrive. Et le temps qui s'accomplit là, c'est le temps pour Jésus de souffrir la passion. Il va passer par là, mais pour notre salut et pour sa gloire. La passion, ce n'est pas les derniers mots. La mort sur la croix, ce n'est pas les derniers chapitres de la vie de Jésus. C'est un passage obligé pour que Jésus soit glorifié par le Père et pour que nous soyons sauvés. L'intervention chirurgicale que vous redoutez, eh bien, sachez que c'est un passage obligé. Il faut passer par là avec le Seigneur. comme Jésus qui passe par la passion, mais pour sa gloire, pour que le Père le glorifie et pour que nous nous soyons sauvés. Vous aussi, vous allez passer par là, par cette intervention chirurgicale, mais pour que vous puissiez être guéri. C'est ça, le passage obligé. Ça arrive comme ça dans la vie, des épreuves par lesquelles nous passons. Pensons à Jésus. Ayons le courage d'affronter certaines épreuves, parce que parfois, c'est les passages obligés pour votre salut. Passage obligé pour que vous soyez heureux dans votre vie. La deuxième leçon à retenir, c'est toujours la souffrance morale. Jésus souffre déjà moralement avant de souffrir physiquement. Voilà qu'il envoie ses disciples, des messagers. Il est très organisé. Avant d'arriver chez les Samaritains, il envoie des messagers préparer la route. Négocier avec eux, parce que la Samarie offre un raccourci pour aller à Jérusalem. Si vous passez par la Samarie chez les Samaritains, eh bien, vous évitez plusieurs heures de voyage, parce qu'il y a un raccourci par là. Alors, il négocie pour qu'on lui donne la possibilité de passer par la Samarie, qui est un raccourci, afin d'arriver à Jérusalem un peu plus tôt que prévu. Les Samaritains refusent. Il doit prendre le détour, un long chemin. Et c'est déjà la souffrance morale qui commence. Chers auditeurs, chers internautes, voilà. Jésus n'est pas accueilli par le Samaritain. Et il doit rebrousser chemin. Il doit prendre un détour. Il souffre moralement. Avant la passion physique, avant de souffrir dans son corps, il souffre déjà dans son cœur. Il souffre du rejet, rejeté par le Samaritain. Nous voulons ici penser à toutes ces personnes qui souffrent dans leur cœur, qui se sentent abandonnées, trahies, des personnes déçues, ceux qui sont blessés dans leur cœur. Ils sont en train de vivre ce qu'on peut appeler la passion morale. Ils ne souffrent pas physiquement, mais dans leur cœur, ils souffrent. La trahison, la déception, tout cela qui traversent des moments pareils, parce qu'ils se sentent vraiment abandonnés par les leurs, leur famille, leurs amis et connaissances. Nous pensons à eux, à travers cet évangile où on sent que Jésus aussi souffre dans son cœur, avant de souffrir dans son corps. Et enfin, pour les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, c'est le moment où le Seigneur doit manifester sa puissance. Comme puissance nuisible. Donc, expédier le feu sur les Samaritains qui ont refusé à Jésus le passage par leur terroir. Jésus dit non, on ne peut pas le faire. Donc, dans sa souffrance, Jésus continue à aimer. Et ça, c'est la conclusion de cette petite méditation, c'est l'amour. Dans la souffrance, comme dans la joie, il faut aimer et aimer jusqu'au bout. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.